Un journal présenté à 18h sur France Culture par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Toujours pas d'accord de Brexit, mais les négociateurs restent optimistes. Les bases sont prêtes, selon Donald Tusk. Éclairage d'Angélique Bouin depuis Bruxelles. L'offensive turque ne cessera que si les forces kurdes déposent leurs armes et se retirent du nord de la Syrie. Discours inflexible du président Erdogan. Mais il accepte finalement de recevoir les émissaires de Donald Trump. Nous irons à Istanbul. Paris demande à Téhéran de libérer sans délai les chercheurs Roland Marshall et Fariba Adelha. Ils sont retenus en Iran depuis juin dernier, analyse de Franck Matvon. Au procès du Mediator, la lanceuse d'alerte Irène Frachon accuse les laboratoires Servier d'avoir été dans un déni inébranlable, compte rendu d'audience de Florence Turme. Les dirigeants des pays de l'Union européenne se retrouvent demain à Bruxelles. Ces derniers jours, les négociateurs du Brexit ont multiplié les échanges et les efforts dans l'espoir de formaliser un accord à l'occasion de ce sommet. Alors on a entendu des discours tantôt optimistes, tantôt prudents. Les bases d'un accord sont prêtes, a déclaré Donald Tusk cet après-midi. Selon le président du Conseil européen, tout devrait s'éclaircir dans les heures qui viennent. Alors Angélique Bouin, vous suivez le feuilleton du Brexit depuis Bruxelles, vous allez nous en dire plus justement sur ce qui pourrait se passer dans les heures qui viennent, mais surtout, quelles sont ces bases sur lesquelles pourrait reposer cet accord ?
Et bien sûr, un dispositif très complexe qui permettrait à la fois de laisser juridiquement l'Irlande du Nord dans l'espace douanier britannique, ce que veut Londres, tout en réglementant l'arrivée sur ce territoire des marchandises. Très concrètement, un poulet qui ne respecterait pas les normes européennes ne doit pas, rappelons-le, pour autant atterrir dans l'assiette d'un Nord-Irlandais. Pourquoi ? Eh bien parce que personne ne veut rétablir de frontière entre l'Irlande du Nord et sa voisine, la République irlandaise, hein, qui va rester dans l'Union européenne, pour ne pas raviver le conflit. Ce poulet doit donc être bloqué avant son arrivée sur l'île d'Irlande. On devrait donc rétablir des contrôles quelque part sur le territoire britannique, sans doute dans les ports et les aéroports nord-irlandais, cela reste à confirmer. Ce n'est pas tout, pour les marchandises autorisées cette fois à entrer en Irlande du Nord, en provenance par exemple des États-Unis, hein, eh bien les négociateurs ont essayé de voir aussi comment trier celles qui seraient destinées au marché intérieur de cette région britannique, de celles qui seront envoyées en République irlandaise afin d'imposer des taxes. À qui confier ces contrôles, à des douaniers européens ou bien faut-il faire confiance aux Britanniques? Ce sont toutes ces questions qui sont en train d'être résolu, hein, selon les dernières informations. Il y a eu deux autres points sur lesquels on a travaillé. Le droit de regard accordé aux autorités nord-irlandaises sur l'accord de divorce, hein, que les Européens assimilaient à un droit de veto. Et puis la relation future, hein, autre point qui a beaucoup bloqué. Theresa May s'était engagée à ce que son pays ne se lance pas, après le Brexit, dans une guerre commerciale avec l'Union européenne. Elle promettait même un alignement des normes sociales, environnementales et fiscales. Boris Johnson n'est pas sur la même ligne. Alors, qui a fait des concessions sur quoi ? Quels sont les détails de cet accord ? On ne sait pas très bien. Un accord qui pourrait donc être acté ce soir. Hein. Certaines sources européennes disent que les questions de concurrence, les arrangements douaniers, les modalités de validation de l'accord auraient été acceptées. Ça reste encore évidemment au conditionnel. On peut aussi imaginer que les discussions se poursuivent encore parce que techniquement, c'est très très compliqué. Tout est possible. Et puis attention, en cas d'accord, hein, ce soir, demain ou vendredi, rappelons qu'il faudra encore que celui-ci soit ratifié par les parlementaires britanniques. Et ça, c'est une autre paire de manches.
À suivre donc. Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles pour France Culture. Et comme le Brexit lasse de plus en plus les Britanniques, le groupe de télévision Sky lance ce soir une nouvelle chaîne d'information intitulée Sky News Brexit Free. Une chaîne qui, vous l'aurez compris, parle de tout sauf du Brexit. La nouvelle Commission européenne ne devrait prendre ses fonctions que le 1er décembre, le Parlement européen ayant rejeté les candidatures de Sylvie Goulard et de deux autres commissaires. Si la France, la Hongrie et la Roumanie doivent proposer de nouveaux candidats pour les postes de commissaires qui leur reviennent. Pour le président turc, pas question de mettre fin à son intervention militaire en Syrie, en tout cas pas avant le retrait des forces kurdes du nord du pays. Les milices que le président Erdogan qualifie de terroristes doivent impérativement déposer les armes. Illustration de la détermination du chef de l'État, il a d'abord fait mine de snober le vice-président américain Mike Pence et le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui font tous les deux le déplacement en Turquie pour tenter de le convaincre de mettre un terme à son offensive. La rencontre, en tout cas, risque d'être glaciale. Les précisions d'Anne Andlauer à Istanbul.
Le soutien des États-Unis aux forces kurdes de Syrie était déjà l'objet d'une crise rampante entre Ankara et Washington ces cinq dernières années. L'offensive de la Turquie contre ces mêmes forces kurdes risque d'en être le point culminant. Les premières sanctions décrétées cette semaine par la Maison-Blanche, finalement assez limitées, n'ont pas créé beaucoup de remous à Ankara, Recep Tayyip Erdogan estimant que Donald Trump souhaitait surtout apaiser le Congrès. Il en ira tout autrement si le président américain décrète d'autres sanctions, comme il a menacé de le faire, et si le Congrès américain punit à son tour la Turquie avec un projet de représailles qui viserait notamment le président Erdogan lui-même. Le chef de l'État turc a confirmé qu'il rencontrerait ce jeudi la délégation menée par le vice-président Mike Pence, mais on voit mal ce que ces derniers peuvent obtenir de lui. Non seulement Tayyip Erdogan refuse toute offre de médiation avec les forces kurdes, mais il exige leur retrait total et sans leurs armes du nord de la Syrie pour arrêter son offensive. Les relations entre les deux alliés de l'OTAN sont tellement tendues que Recep Tayyip Erdogan, qui avait annoncé dans un premier temps qu'il se rendrait à Washington le 13 novembre à l'invitation de Donald Trump, sème désormais le doute. Il dit attendre sa rencontre avec la délégation américaine pour prendre sa décision.
L'offensive turque en Syrie fait craindre des évasions de djihadistes étrangers détenus par les Kurdes syriens. Jean-Yves Le Drian se rend ce soir en Irak pour évoquer le sujet. Le ministre des Affaires étrangères veut notamment discuter avec Bagdad de la création en Irak d'un dispositif international pour juger les djihadistes du groupe État islamique. Paris demande à Téhéran de mettre fin sans délai à une situation inacceptable. Le Quai d'Orsay a confirmé aujourd'hui l'information sortie par le Figaro. Le chercheur Roland Marshall est actuellement emprisonné en Iran. Il a été arrêté en juin, sans doute le même jour que l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelha. L'arrestation de Fariba Adelha avait été confirmée par Téhéran cet été. Jusqu'à présent, les autorités françaises avaient préféré taire celle de Roland Marshall. Franck Madvon.
Les termes employés par le Quai d'Orsay sont forts, condamnation ferme, situation inacceptable. En confirmant la détention du chercheur Roland Marshall, dont étaient informés des collègues et quelques médias, dont France Info, les autorités françaises disent être pleinement mobilisées. Le consul à Téhéran a pu lui rendre visite à la prison d'Evin. Roland Marshall et sa compagne, l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelha, ont été arrêtés en Iran presque au même moment, début juin, lui à son arrivée à l'aéroport, elle à son domicile. En juillet, le Quai d'Orsay n'avait révélé que l'arrestation de Fariba Adelha, divulguée par Téhéran. Silence en revanche sur Roland Marshall pour ne pas entraver les négociations. Un silence rompu ce matin par le Figaro, ce qui a provoqué la colère des proches du chercheur. Pour le FASOPO, association de chercheurs dont sont membres Roland Marshall et Fariba Adelha, les deux Français sont des prisonniers scientifiques pris en gage par les gardiens de la Révolution pour on ne sait quel marchandage.
Roland Marshall et Fariba Adelha travaillent pour Sciences Po et le Fonds d'analyse des sociétés politiques. Leurs collègues à qui on a demandé de garder le silence jusqu'à ce matin sont inquiets. Jean-François Bayard, politologue du CERI, le Centre d'études et de recherche internationale à Sciences Po, pense que l'arrestation de ses deux collègues universitaires par Téhéran est une grossière erreur.
Cette accusation d'atteinte à la sécurité de l'État iranien est complètement loufoque. Roland Marshall et Fariba Adelha sont des chercheurs. Ils sont des prisonniers scientifiques pris en otage par les gardiens de la Révolution qui manifestement sont soucieux de faire pression sur les gouvernements occidentaux et notamment sur la France dans la médiation qu'elle a engagée entre l'Iran et les États-Unis. Nous ne pouvons pas rester sans réaction et la première chose que nous demandons en particulier à nos collègues universitaires de toute l'Europe, c'est de suspendre immédiatement toute forme de coopération scientifique avec l'Iran. C'est un principe de précaution, puisque l'Iran, depuis plusieurs mois, arrête de manière complètement arbitraire un nombre croissant d'universitaires, non seulement français, mais également d'autres pays occidentaux.
Jean-François Bayard répondait à Aurélien Accard. Des scènes de guérilla urbaine sans précédent en Catalogne. Les manifestants dénoncent la condamnation de 9 dirigeants indépendantistes en début de semaine, condamnés à des peines allant jusqu'à 13 ans de prison. La colère s'exprime à Barcelone, mais aussi dans d'autres villes de la région, comme à Sils, près de Gérone, où vous vous trouvez, Anne-Natacha Bouillon.
Près de 10 000 personnes sont parties sur l'autoroute jusqu'à l'aéroport de Gérone, puis sur la route. Elles sont plus de 15 000 ici à Sils, où elles ont fait une pause jusqu'à 17 heures environ. T-shirts et drapeaux catalans, toutes crient pour la liberté des prisonniers politiques et la démocratie en général. Un mouvement pacifiste, disent les organisateurs, pour dénoncer l'injustice dont sont victimes les Catalans, l'a montré haut et fort à la société internationale. Mais au-delà du message politique, c'est l'union, la motivation, les efforts de tous qu'ils veulent montrer, jeunes, moins jeunes, travailleurs qui ont pris une journée, grossissent le cortège à chaque passage dans les villages. Ici à Sils, des agriculteurs ont même garé leur tracteur sur la chaussée pour bloquer la circulation. La sentence du tribunal lundi a été un coup de massue, mais tous restent debout, ils le montrent et ils marchent.
Anne-Natacha Bouillon et le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a dénoncé dans la nuit la violence généralisée. Aujourd'hui, il a annoncé des consultations avec les patrons de la droite, du centre libéral et de la gauche radicale pour discuter de la réponse à donner à ce mouvement de colère. La crise politique s'aggrave à Hong Kong. Ce matin, les députés pro-démocratie ont empêché la chef de l'exécutif de prendre la parole devant le Parlement. Carrie Lam a fini par sortir sous les huées et c'est par vidéoconférence qu'elle a finalement pu prononcer son discours annuel de politique générale. Elle compte sur un ensemble de mesures économiques et sociales pour mettre fin à la crise, mais rejette les revendications du mouvement de protestation. La correspondance de Dominique André.
À peine a-t-on vu sur son visage une trace d'émotion dans le chaos de cette matinée, mais très rapidement, Carrie Lam reprenait le dessus, très ferme, dans son discours retransmis par vidéoconférence, faute de pouvoir prendre la parole devant les élus.
Aucune action revendiquant l'indépendance de Hong Kong et menaçant la souveraineté, la sécurité ou les intérêts économiques du pays ne sera tolérée. Malgré cette période troublée, je suis fermement convaincue que grâce à la politique de un pays, deux systèmes, Hong Kong sera capable de surmonter cette tempête et d'aller de l'avant.
Carrie Lam redoutait cette journée de rentrée parlementaire, mais devait présenter sa nouvelle politique sociale et économique, notamment en matière d'immobilier, pour calmer la crise. Carrie Lam compte beaucoup sur ces mesures qui n'ont pas convaincu le Front civil des droits de l'homme à l'origine de la manifestation monstre de juin dernier. Le Front civil a demandé l'autorisation de manifester dimanche et réclame toujours la démission de Carrie Lam. L'épreuve de force n'est pas finie. Les scènes chaotiques dans le Parlement ce matin sont sans précédent.
Dominique André à Hong Kong. Elle est connue pour avoir révélé le scandale du Mediator. La pneumologue Irène Frachon, auteure du livre Mediator 150 mg, combien de morts, a été logiquement auditionnée par le tribunal correctionnel de Paris qui juge les laboratoires Servier et l'agence du médicament depuis le 23 septembre. Le Mediator avait fait l'objet d'alertes répétées à partir de 1999. Il a finalement été retiré de la vente en 2009. Irène Frachon avait longuement enquêté sur ce médicament. Compte rendu d'audience de Florence Turme.
Elle entre dans une salle comble, chemise blanche et pantalon beige, démarche ample et assurée, voix claire, discours fluide. Irène Frachon remonte le temps jusqu'à ses années d'internat à l'hôpital Becker de Clamart, spécialisée dans les HTAP, les hypertensions artérielles pulmonaires. Affection considérée alors comme une maladie orpheline, mais la jeune interne perçoit l'inquiétude des chefs de service confrontés à quantité de jeunes femmes qui arrivent avec 2 ans d'espérance de vie. Et on pense que la maladie est bien la conséquence d'un coup fin, la fenfluramine. Puis poursuit Irène Frachon, j'ai suivi mon époux à Brest, il fait des cartes marines, précise-t-elle au passage. Elle coordonne à son tour un centre d'alerte HTAP, reçoit en 2007 Joël, une hypertension exceptionnelle par sa gravité, je m'aperçois qu'elle est sous Mediator. Je tique, pourquoi je tique, vous allez comprendre. Elle semble chez elle dans l'enceinte judiciaire, sort une clé USB de son sac, 2 photos s'affichent à l'écran, Irène Frachon pointe du doigt un cœur normal et à droite celui de Marie-Claude, une femme de 50 ans décédée à précision de Mediator. Vous voyez cette gangue fibreuse monstrueuse qui rendait son cœur inefficace. Irène Frachon lance l'enquête sans jamais rien lâcher. Malgré les pressions et les menaces, compare les cas, consulte les meilleurs spécialistes, met en doute y compris ses propres certitudes avant d'aboutir à cette conviction. Le Mediator est bien à l'origine de ces pathologies mortelles. Face à moi, reprend-elle, un déni inébranlable des laboratoires Servier et ce sentiment d'urgence qui ne m'a pas quitté jusqu'au retrait du médicament. C'était en 2009. Marie-Claude venait de mourir.
Florence Turme avec Stéphane Beaufils à la technique. Une première journée de grève interprofessionnelle est annoncée contre la réforme des retraites. Le futur système de retraite universel par points censé fusionner les 42 régimes existants ne passe pas. Et les principaux syndicats, dont FO et la CGT, affichent pour une fois leur unité. Ils rejoignent plusieurs syndicats de la RATP et de la SNCF pour appeler à la grève le 5 décembre. Alors il y a convergence d'intérêts, Sarah Ders, mais pas tout à fait convergence des luttes.
Et oui, une unité affichée dans un communiqué publié aujourd'hui après de longues discussions, notamment entre les deux syndicats, la CGT et FO. Force ouvrière qui n'avait pas encore rejoint le mouvement il y a quelques jours se dit prêt à s'unir dans l'opposition. Yves Verrier, son secrétaire général.
Pour se faire entendre à ce niveau-là, parce que ça concerne l'ensemble des salariés, bien sûr qu'il faudra aller vers une unité d'action syndicale la plus large. Nous étions et nous sommes dans cet état d'esprit à FO, c'est ce qui nous conduit à nous accorder hier sur le communiqué qui est donc paru aujourd'hui et qui appelle l'ensemble des salariés à se mobiliser.
Des mobilisations jusqu'ici en ordre dispersé contre la réforme des retraites. Cette fois, les syndicats affichent un plan d'action commun, une convergence d'intérêts défendue et détaillée par Fabrice Angéhi, le secrétaire confédéral de la CGT.
L'ordre dispersé n'était pas forcément divergence. Donc là, on voit bien qu'on arrive à se retrouver sur l'essentiel et qu'on va aller sur une plateforme revendicative où seront intégrées les questions d'emploi, de travail, de salaire, puisque c'est aussi dans l'activité qu'on prépare la retraite, et donc c'est bien lié. Donc ces questions-là seront liées, donc c'est bien qu'on se retrouve, qu'on l'exprime ensemble. Moi, j'observe que professionnellement, on a aussi des syndicats et des branches d'autres confédérations qui appellent à la grève ce jour-là ou qui seront dans le mouvement.
Les organisations de jeunesse ont rejoint le mouvement. La date du jeudi 5 décembre correspond au jour choisi par plusieurs syndicats de la RATP, de la SNCF et des transports routiers pour démarrer une grève illimitée.
Édouard Philippe ira débattre demain soir de la réforme des retraites dans le Jura. Le Premier ministre sera à Lons-le-Saunier, accompagné du haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye. Il rencontrera des parents d'élèves d'écoles élémentaires pour cette consultation citoyenne. Ces consultations qui sont organisées jusqu'à la fin de l'année pour tenter de déminer les inquiétudes des Français. Le chef du gouvernement espérait déminer également la polémique sur le voile hier en rappelant la loi en la matière, mais voilà que la députée La République En Marche, Aurore Berger, se dit prête à voter une proposition de loi Les Républicains sur l'interdiction du voile lors des sorties scolaires. Plusieurs députés LREM lui ont immédiatement répondu sur Twitter « Not in my name ». Bref, le sujet fait toujours débat au sein de la majorité, Pierre Neveu.
Et le projet de loi Asile et Immigration avait déjà fracturé la majorité présidentielle. Elle se lézarde un peu plus aujourd'hui à la faveur des prises de parole publiques des uns et des autres. L'aile gauche des marcheurs représentée par Aurélien Taché proclame la loi rien que la loi, quitte à brusquer le ministre Jean-Michel Blanquer qui estime que le port du voile n'est pas souhaitable dans notre société. Alors, du côté de l'aile droite, La République En Marche, la porte-parole, Aurore Berger, se déclare prête, elle, à voter une proposition de loi Les Républicains sur l'interdiction du voile lors des sorties scolaires. Elle le revendique au nom, dit-elle, de la cohérence avec ses convictions. Ces dissonances révèlent donc toute la complexité à rassembler des élus de droite et de gauche au sein de la même famille et à les réunir sur des sujets de société sensibles, pour ne pas dire explosifs, comme le souligne le politologue Benjamin Morel.
La République En Marche, comme elle n'a pas passé de parti et comme elle n'a pas cette force de cohésion qui était celle d'un parti, est beaucoup plus en délicatesse avec ce type de clivage qui sont inhérents à tout mouvement. Et ça, c'est un vrai, vrai problème pour la majorité. Le chef, il est là, si vous voulez. Le chef, c'est Emmanuel Macron. Le fait qu'Emmanuel Macron, sur ces sujets-là, eh bien, tente de ménager plusieurs éléments de sa base électorale, fait que, en effet, son absence, ou en tout cas sa présence relativement fantomatique sur ces sujets-là, est probablement d'une certaine façon un problème. Mais même quand il avait parlé devant les parlementaires, on a vu qu'il y avait tout de même des lignes de tension au sein de La République En Marche.
Et dans cette cacophonie, une mise au point du chef de l'État paraît nécessaire. L'Élysée explique que cette question n'est pas encore à l'ordre du jour. En attendant, Emmanuel Macron a effectué une mise en garde auprès de ses proches contre, dit-il, les amalgames entre les questions d'immigration, de radicalisation, de communautarisme et de laïcité.
Pierre Neveu, soulagement au Louvre. L'Italie autorise le prêt des œuvres de Léonard de Vinci au musée. Le musée du Louvre consacre une grande exposition au maître de la Renaissance à partir du 24 octobre, mais l'autorisation de sortie du territoire de plusieurs œuvres conservées en Italie avait été suspendue. Parmi ces œuvres, l'homme de Vitruve, l'un des dessins les plus célèbres de Léonard de Vinci. La justice italienne vient de trancher, Bruce de Galzin.
C'était le fond du problème et la justice a tranché. Non, l'homme de Vitruve ne constitue pas le fond principal, l'identité même des galeries de l'Académie à Venise. Et donc non, il n'est pas interdit de prêter l'œuvre de Léonard de Vinci au Louvre. Le tribunal rappelle d'ailleurs que dans le passé, d'autres œuvres ont été prêtées à l'étranger, des œuvres de Giorgione et de Bosch, de Michel-Ange. Les arguments de l'association Italia Nostra sur la fragilité de l'œuvre notamment, qui n'aurait pas pu voyager, sont jugés infondés par le tribunal. Il estime au contraire que le ministère de la Culture a correctement fait son travail. La suspension de l'accord signé entre la France et l'Italie aurait aussi porté préjudice au musée du Louvre, explique le tribunal. Il se range en fait derrière les arguments du ministère de la Culture italien. L'exposition aura une portée internationale exceptionnelle, a dit l'avocat du gouvernement. Elle permet à l'Italie de valoriser son patrimoine et ses musées. L'avocat a enfin insisté sur l'avantage obtenu par l'Italie en échange des œuvres de Vinci, puisque 5 peintures et dessins de Raphaël seront exposés à Rome l'an prochain.
Bruce de Galzin à Rome. Demain jeudi, des passages pluvieux du sud-ouest vers le nord-ouest et ceux du matin au soir. Au petit matin, les températures seront comprises entre 9 et 16 degrés. L'après-midi, il fera 14 à 20 sur la moitié nord, 17 à 24 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.